Jean-Louis Schlegel, vous êtes sociologue des religions et à ce titre, vous vous êtes intéressé à toute forme de religiosité. Les chrétiens, est-ce que eux aussi ont succombé à cette tentation de la religion à la carte?
Oui, je crois qu'ils ont eux aussi succombé, à tort ou à raison, à la religion à la carte, c'est-à-dire à cette tendance assez simple à définir, c'est on en prend, on en laisse. L'individualisme est une tendance sociale très 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 forte, très large, avec des contours un peu indéfinis qui s'est vraiment manifesté peut-être dans le dernier quart du XXe siècle en Europe. Et cet individualisme, alors, se manifeste effectivement par des formes très diverses, dont la religion à la carte, c'est-à-dire on reste chrétien, on reste par exemple catholique et on se dit catholique, mais on pense que il y a cette idée hein, qu'on est assez grand pour faire son menu à la carte. Donc dans les exigences parfois importantes de l'Église, dans les propositions qu'elle fait, on peut choisir. Je crois que c'est important parce que ce n'est pas un refus, c'est plutôt que dans ce qu'elle propose, on peut choisir. C'est évidemment un peu ce qu'on sent derrière, c'est cette idée que l'Église aussi est une société de service. Alors on a parfois parlé des sociologues hein, dans un temps antérieur que l'Église n'est pas un supermarché, mais disons du côté du consommateur religieux, il y a un peu cette tendance à demander que l'Église propose des choses et ensuite qu'on fasse son petit marché là-dedans. Moi-même, en parlant ainsi, évidemment, j'ai l'air d'être un tout petit peu méprisant, mais je ne le suis pas a priori, quoi. Là, c'est plutôt un constat.
Est-ce que dans le constat dont vous parlez, une des raisons peut être trouvée dans le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une société extrêmement éparpillée?
Je vous suis entièrement. Nous sommes très disséminés, très éparpillés dans le temps. Nous vivons des temps successifs extraordinairement brefs, rapides, parfois intenses, parfois moins intenses. Nous vivons aussi tous quotidiennement dans des lieux extrêmement différents. Alors qui pourrait penser sérieusement que ces conditions extérieures n'influent pas sur notre intérieur? Alors du côté intérieur aussi, c'est un peu vrai, l'unité de son identité personnelle, un certain nombre de gens de nos sociétés ont de la difficulté à la trouver, à l'avoir. Je dirais même le principal problème, alors de bons sociologues ont quand même assez bien raconté ça, le problème principal de ce temps, c'est un problème d'identité. Et du coup, quand l'identité ne marche pas, j'allais dire, c'est la dépression, éventuellement le ressentiment. Mais la dépression rend encore plus importante ensuite, à mon avis, ce besoin de chercher un peu n'importe où la solution. Peut-être que derrière la religion à la carte, il y a une assez forte détresse, finalement non dite, des gens de notre époque. On fuit à tout prix toute tragédie. Notre cher vieux Pascal avait quand même dit des choses tout à fait décisives là sur le divertissement, quoi. Simplement à lui à son époque, il voyait de façon assez apparente, c'est vrai, les libertins. Le mot le signifie bien ce qu'il veut dire, libertaire. On peut dire aujourd'hui dans la société de consommation, ce côté libertaire, je ne veux pas du tout dire nécessairement dans le comportement moral, mais ce côté usage des libertés presque compulsives, des libertés qu'on a, est très présent. Moi, ça me paraît évident.
Est-ce qu'on peut dire aussi que derrière quand même cette liberté, il y a une part de créativité?
Alors, je pense que la créativité en fait partie, puisque c'est une des valeurs les plus prônées par ailleurs, hein. L'innovation, la créativité, ce sont des mots extrêmement positifs. La difficulté, c'est que est-ce que tout le monde peut être créateur et est-ce que tout le monde peut être innovant? C'est quand même une grande difficulté, parce que quand vous avez des slogans de ce genre-là, et que, mettons, ils sont intériorisés, pour des gens qui ont plus de mal, ça peut devenir extrêmement fatigant. C'est l'expression d'Alain Ehrenberg, pardon de citer ses références, il parle de la fatigue d'être soi. C'est vrai que c'est une société très contradictoire de ce côté-là. Bon, à la fois, vous avez tout à fait raison de rappeler ce côté extraordinairement valorisé de la création, mais quand on n'arrive pas à créer, ça donne quoi? On retombe où?
Alors quand vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui dans l'Église, on prend un peu ci, on prend un peu ça, on ne prend pas tout ce que dit l'Église, ce qui sous-entend qu'autrefois on prenait tout?
Mais l'Église catholique a une tradition intégraliste, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas catholique le jour et non catholique la nuit, ou l'inverse, enfin, où la vie publique, l'espace public où on vit, on doit y vivre comme on pourrait dire un témoin peut-être de l'Église, du Christ, mais aussi dans la vie privée. Alors c'est vrai que là-dessus, en même temps, socialement parlant, on a vu des renversements tout à fait étonnants. René Raymond disait au 19e, alors l'Église ne supportait absolument pas des positions divergentes sur le plan public politique. Disons, le libéralisme catholique est quelque chose qui a été très vivement combattu par l'Église post-révolutionnaire et contre-révolutionnaire, pour d'ailleurs d'autres raisons historiques. Par contre, dans la vie privée, l'Église n'a pas fait de grands textes au XIXe. On pourrait dire, bon, la vie privée, le bourgeois du XIXe qui trompe sa femme, bon, bah, il va se confesser, mais on n'a pas besoin d'écrire un grand texte. On pourrait dire que là, maintenant, au XXe, ça s'est presque inversé, puisque l'Église laisse quand même une assez grande liberté, une assez grande latitude de choix dans le domaine public, politique. Ce qu'elle demande, au fond, c'est l'engagement pour le chrétien ou le catholique qui se veut vraiment catholique, appartenant à l'Église. Par contre, elle a insisté beaucoup, il faut bien le dire, dans beaucoup de textes, sur la juste vie privée, les comportements justes et les comportements moraux et les normes de la vie privée. La difficulté de l'individualisme religieux, c'est qu'il n'y a pas de vrai ennemi pour l'Église. Beaucoup de catholiques, j'en connais, vivent au fond sur ce régime du « j'en prends, j'en laisse », avec des intensités diverses, mais la difficulté pour l'Église, c'est que ce ne sont pas des ennemis. Ça lui est plus facile, finalement, de dire des choses à un athée, à un agnostique bien constitué, qu'à ces catholiques ou à ces chrétiens qui sont pas non plus... C'est pas la demi-teinte, quoi. Hein, c'est une autre manière d'être catholique.
Comment comprendre pourquoi ces grandes traditions religieuses voient aujourd'hui une partie de leurs adeptes partir dans des formes de contestation, dans des formes de croyances archaïques, dans des formes de croisades?
Moi, je trouve que c'est exactement l'autre versant de l'individualisme, c'est-à-dire une quête d'identité, au contraire, contre ce qui est perçu comme un délitement, comme un manque d'identité, finalement, hein, comme une identité trop molle, ou justement une identité trop subjectivement fabriquée. Les identitaires, si on lit leurs textes, on pourrait les mettre comme ça en vis-à-vis avec ceux des individualistes ou ceux sur l'individualisme qui existent. Je dirais là où les individualistes insistent totalement sur la face subjective des choix, les identitaires indiqueraient plutôt, mettons, sur l'objectivité des croyances ou l'objectivité des doctrines, et qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. Une des choses qui croit quand même de façon formidable, et ça, Olivier Roy l'a montré dans son dernier livre sur la sainte ignorance, enfin, c'est intitulé comme ça, à quel point l'inculture ou les rapports entre foi et culture aujourd'hui sont devenus problématiques.
Hein. Pourquoi ?
En partie, la culture est une culture spécialisée. Du coup, on pourrait dire la culture religieuse elle-même, forcément, a tendance à se spécialiser. Nous le disons parfois de façon un petit peu lapidaire, mais beaucoup de gens ne savent plus rien. Il fut un temps, il y a 20 ans, 30 ans, nous disions les jeunes ne savent plus rien. Mais ce n'est pas vrai, les adultes non plus ne savent plus rien. Je pense en partie ça vient des ruptures de mémoire actuelles, c'est-à-dire que dans des générations antérieures, il y avait une transmission se faisait sur une plus longue durée. Tandis qu'aujourd'hui, quand même, pratiquement plus personne n'a de contexte religieux, ce qui fait que ce que les gens savent encore de la religion, souvent, ils le voient par les événements de la télévision, par ce qu'en dit la télévision. On ne connaît plus que ce dans quoi on est directement plongé.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à toutes ces grandes questions par rapport au lien entre foi et religion, foi et culture, science et religion?
Je dirais, au fond, moi, la religion, c'est ce qui m'a passionné dans ma vie. J'ai sucé le lait de la religion à une époque où elle n'était pas encore contestée, donc années 50. J'ai vécu de grands événements comme le Concile et mai 68 de façon intense. Donc, pas nécessairement comme un participant, mais comme un spectateur engagé et marqué par ces événements et transformé par ces événements. Mais je dirais, ce qui est toujours resté, en dépit de mes ruptures personnelles dans ma vie, c'est alors un intérêt incroyable pour la chose religieuse. Et je dirais même, là, nous parlons un peu sociologie, moi j'ai un intérêt pour tout ce qui est religieux, pour la théologie, j'adore ça, la spiritualité, dont vous êtes une spécialiste, tout m'intéresse.
Tout ce qui est religion vous intéresse. Mais moi, j'entends aussi derrière la façon dont l'homme se situe.
Alors, effectivement, si je vais plus loin, c'est bien entendu cela qui est en question. Pour moi, c'est pas comment dire, je voudrais pas laisser entendre quand même que je ne vois pas de vie hors religion. Ce n'est pas ça. J'ai justifié intellectuellement, rationnellement, l'importance du fait religieux, du fait humain religieux, du fait anthropologique, le fait que ce soit un fait humain total et peut-être même l'un des plus considérables et l'un des plus globaux. Je suis devenu éditeur dans une grande maison d'édition parisienne et je me suis occupé en particulier des livres religieux. Et au fond, une des choses passionnantes alors, de ce métier-là avec des livres de religion, c'est de m'apercevoir que les livres religieux pouvaient concerner tous les domaines du savoir, tous, hein, psychologie, sociologie, philosophie, tous les temps. Et tous les espaces. Je raconte souvent en plaisantant, mais je ne suis pas le seul, que dans les années 70, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la sociologie des religions, à l'époque, quand même, on ne donnait pas très cher du religieux. Hein. On avait tous l'impression que ça ne pouvait que décroître. Aujourd'hui, mais même des journalistes qui sont chargés de la rubrique religieuse vous le disent, la semaine ne suffit pas à couvrir le minimum de ce qu'il faudrait couvrir, parce qu'il y a tout le temps autre chose. Mais il n'y a pas de retour du religieux. En revanche, elle est à la une. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, elle est revenue dans l'espace public.
Vous parlez des années 70. Nous sommes presque en 2010. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette période de 40 ans ?
Je terminerai ma vie là-dessus, sur cette conviction que la religion est quand même un phénomène étonnant. Est un phénomène humain extraordinaire, extraordinairement profond. Je pense que ce qui est mortel pour une civilisation, ce serait qu'il n'y ait plus aucune dialectique entre religion et culture, entre religion et politique.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Tout ce que je vous ai dit là, sur le ton un peu d'une conversation amicale et un peu distanciée, si je le traduisais quand même plus personnellement, j'aurais dit, dans les tribulations intérieures que j'ai vécues, que je peux vivre moi-même avec la foi au Christ, je reste toujours dans la prière, dans l'invocation, que je ne sois jamais séparé de toi.